Anaïs Quien, bonjour.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Anaïs, aujourd'hui vous nous proposez une histoire lumineuse.
La nuit sera belle à Genève demain soir puisque 149 communes de l'agglomération ont décidé d'éteindre leur éclairage public pour sensibiliser la population aux méfaits de la pollution lumineuse. La lumière en ville s'est pourtant faite désirer. Il a fallu attendre le 19e siècle pour se déplacer en voyant où l'on mettait ses pieds. À Paris, l'histoire de l'éclairage public débute timidement par l'accrochage d'une lanterne à la tour de Nesle à l'entrée de la ville, renforcée par une bougie disposée à la sortie du Châtelet en 1318, après l'agression d'un juge qui n'avait pas vu les vilains en embuscade dans la pénombre. L'éclairage public reste donc minimaliste jusqu'au 19e siècle, qui voit apparaître une bougie tous les 20 ou 30 mètres, puis des becs benzène qui font craindre les explosions, et enfin les ampoules électriques qui, par leur puissance inédite, font craindre l'aveuglement.
Je veux pas faire de la réclame ni de la publicité, mais tous les coins de Paname n'ont pas l'électricité. Il y a des coins où je vous jure qu'on y voit clair, éclairés par les bons vieux PQR. C'est dans ces coins qu'on peut me voir aller faire mon petit tour le soir.
Si la lumière artificielle nocturne est instaurée pour des questions de sécurité, elle se fait aussi spectacle dans les années 1860 sur les annonces de théâtre des colonnes Maurice, en voie de disparition aujourd'hui, et sur les toits des immeubles à des fins publicitaires. C'est Kodak qui ouvre le bal en installant un gigantesque K ardent sur un immeuble de la place de l'Opéra. Les vitrines s'allument également et attirent avec succès les passants puisque le Paris nocturne illuminé est devenu un lieu de promenade envisageable. Avec l'invention du néon, on peut désormais profiter de la texture de la nuit. Après le blackout de la Première Guerre mondiale, c'est une explosion lumineuse qui s'offre aux yeux des passants. Les chevrons de Citroën s'installent pendant 9 ans sur la Tour Eiffel. Un âge d'or que l'on retrouve après la Deuxième Guerre mondiale et l'hypertrophie publicitaire des Trente Glorieuses.
Cette avenue Victor Hugo, aujourd'hui, symbolise un peu la phrase typique Paris. Ville-lumière. En effet, tous les deux arbres, une guirlande lumineuse, célèbre Noël. Monsieur Boulin, vous avez commencé, je crois, avec un kilomètre de rue éclairée. Et maintenant, vous
nous
en êtes...
à 3 kilomètres, c'est-à-dire que nous allons jusqu'au bois, cette année.
C'est une initiative qui doit coûter assez cher, je pense.
Assez cher. Enfin, nous sommes heureux de le faire parce que je crois que les Parisiens sont très sensibles à nos gestes.
Est-ce que ces curieux achètent?
Mais oui, parce que l'année dernière, notre chiffre d'affaires a augmenté assez sensiblement.
De quel ordre environ ?
10%.
L'histoire des enseignes lumineuses perd de sa flamboyance avec les chocs pétroliers successifs des années 70 et les balbutiements d'une pensée écologiste. Ces publicités conçues pour être vues, plus personne ne veut les voir dans son environnement quotidien. Les néons les plus imposants sont évacués des centres de la capitale pour être relégués à ses portes et sur le périphérique. La lutte contre la pollution lumineuse devient une cause et pour certains une guérilla urbaine livrée à la lumière superflue qui persiste dans les rues.
C'est les antinéons donc, qui sillonnent la ville la nuit avec des grands balais parce que ces éclairages en fait, ont un interrupteur extérieur. Donc avec un simple petit ustensile, on peut éteindre les magasins. Et évidemment, enfin, participer d'une manière de faire le noir, ce qui est un jeu d'enfant. Ben, voilà, on souffle les bougies, quoi.
Je souhaite une belle nuit noire aux Genevois et pour les habitants de la région de Reims, je signale une exposition sur la pollution lumineuse à Pourcy que l'on peut encore voir jusqu'à dimanche.
Merci beaucoup Anaïs. Tiens, bah, une fois encore, c'était lumineux.